Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des verts. À ma droite, Olivier, salut à toi Olivier.
Salut.
Alors, émission un peu spéciale puisque on est en différé, comme il y a quelques années, hein, ça faisait 2 ans qu'on avait pris le direct, et ben là, couvre-feu oblige, hein, situation désespérée. À la fois sur le contexte actuel et puis pour les Verts. On va revenir donc pour cette 8e journée de championnat qui a vu la défaite 2-0 en terre lorraine. On reviendra donc longuement sur cette rencontre-là qu'on a du mal à visionner quand même. On reviendra aussi dessus. On passera des morceaux rock and foot, même un petit peu de rap. On clôturera l'émission avec les coups de cœur et les coups de tête, mais bien sûr, il y aura quand même une courte page Haute-Loire et puis les questions d'Olivier et les réponses d'Olivier aussi parce que il n'y a pas Eric. Eric, on te fait un coucou.
Salut
voilà.
Eric.
On va commencer, bien sûr, par ce match de la 8e journée à Metz.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Ouais, un match à Metz. Alors le match se déroulait au stade Saint-Symphorien devant 5000 personnes. Et oui, en Lorraine, on a le droit d'être 5000, contrairement à la Loire. Enfin bref, on va pas faire les malins parce que les Verts se sont un peu noyés face au Grenat. Messin, dimanche. Premier but sur coup franc, c'est Boulaya qui enveloppe sa frappe pour tromper Moulin, mais alors avec un mur stéphanois très très friable. Et puis le deuxième but arrive tard, à la 80e minute, c'est Sissoko qui va dévier dans son but un centre d'Abib Maïga sur le côté droit. Alors on est obligé de noter que les Verts n'ont pas cadré un seul tir durant cette rencontre et qu'ils enchaînent une 4e défaite consécutive. Voilà pour le film du match.
Merci Olivier. Oui, ça a été compliqué. Alors, il faut souligner que avant cette rencontre, on a appris une mauvaise nouvelle dans l'effectif stéphanois, puisque dans la charnière centrale, c'était Moukoudi qui a été donc signalé comme positif au Covid et qui ne pouvait pas être aligné. Donc, ce fut encore plus complexe de fonder une défense. Avec donc les blessés qu'on connaît, hein, donc Masson, Debuchy, et puis Colo, toujours pas là. Et puis même, il n'y a pas que la défense, hein, qui est touchée par ces absences, puisque au milieu de terrain et en opposition d'avant, je pense à Nordin, qui n'est pas là. Ben voilà, toujours autant de blessés à Saint-Etienne, donc difficile pour El Señor Puel de faire une équipe. Donc il est dans son projet d'aligner les jeunes. Là, ben voilà, là on a encore découvert de nouveaux jeunes comme à chaque rencontre de la SSE depuis le début de saison. Et puis une fois de plus on a bu la tasse et puis il n'y a rien à dire sur la rencontre, même si les Stéphanois auraient pu, sur coup de pied arrêté, égaliser en seconde mi-temps, hein, suite à un corner plutôt bien tiré de la part de Cazerie, et puis une double tête qui arrive vers Sceaux, je crois c'est Sceaux qui
Tchibouabois.
Non, c'est Tchibouabois qui passe, sa tête passe juste au-dessus du portier lorrain, Oukidja. Et ouais, ils auraient pu, comme quoi c'est assez fou.
Ouais. Alors pourquoi Tchibouabois était là? Tout simplement parce qu'il a remplacé un autre fait de match important, c'est la blessure du grec Redzos qui s'est bien acclimaté, hein, à son club, hein, deuxième match, et il se blesse, hein, comme beaucoup de Stéphanois depuis quelques temps déjà. Alors tu as raison de souligner ça, parce que je vais quand même donner l'équipe, hein. Cette blessure de Redzos, elle intervient juste à l'entame de la seconde période. Et depuis l'entame, voilà la composition. Donc il y avait Moulin dans les buts, c'était le jeune Sceaux dans l'axe avec le grec Redzos. Et puis sur les côtés, ben c'était la classe biberon de la Saint-Étienne, hein. Alpha Sissoko à droite, Aymen Mouefek à gauche. Au milieu de terrain et en attaque, c'était un petit peu plus classique, avec Camara et Neyou en milieu de terrain. Devant eux, Bouanga, Aouchiche et Moné Paquet de la gauche vers la droite, et tout seul en pointe, Amouma. Alors, je voulais revenir avec toi, Marc, sur cette défaite. Comment on peut expliquer déjà une telle domination messine? Parce que même s'ils n'ont pas eu la possession de la balle, ils ont jamais tremblé, les Messins. On n'a jamais été en capacité d'être dangereux face à cette équipe. Alors, où est-ce que le bas blesse?
Bah déjà dans l'entame de match, les Messins sont bien entrés dans leur rencontre. On était un petit peu acculés sur nos buts et ils se sont créés quelques occasions. Et puis bah sur un coup franc qui intervient dans le premier quart d'heure, hein, et ben bah voilà, ils arrivent à cadrer eux. Et puis bah il en faut peu pour une fois que tu cadres, hein, t'as fait le gros boulot, hein, pour un footballeur, hein, et puis bah ça passe, hein. Alors effectivement il y a la faute à Bouanga qui s'efface un petit peu du mur, et puis la faute à Moulin aussi qui regarde un petit peu trop le ballon passer à sa gauche, le long de son poteau gauche, et voilà, ça fait un but à zéro. Et ça aurait pu être aggravé quelques minutes plus tard suite à un autre coup franc, et suite à un autre coup franc très bien tiré en retrait, et la frappe d'un Messin passe à un mètre à côté du poteau gauche de Moulin. Et puis il y a eu aussi Nguette qui a posé énormément de soucis à la charnière centrale. Même Redzos avait du mal à contenir son dynamisme, sa fougue. Au Sénégalais, hein, il est Sénégalais, je crois.
Ouais. Il y a une grosse filière sénégalaise du côté de Metz.
Voilà, et donc effectivement, c'est l'entame de match qui pêche pour Saint-Étienne, alors que sur les premières rencontres, autant on était fort dans ce domaine-là. Et puis bah là, ça a été le contraire. Alors ils ont, je pense, ils savaient très bien qu'on était friables en défense, et ils ont essayé d'insister là-dessus, les Lorrains. Et puis bah ça a payé. Et puis c'est resté longtemps sur ce score de 1-0, hein, puisque le deuxième but intervient dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
C'est vrai que t'as raison sur les coups de pied arrêtés, et en défense globalement on n'était pas serein. On le voit sur le mur là, de le coup franc, mais aussi sur tous les corners, sur les ballons un petit peu litigieux, on sentait que ça paniquait un peu, et c'est normal parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont 18 ans tous les deux là. Du coup en seconde période, on avait une défense extrêmement jeune. Donc t'as remarqué ça aussi, cette espèce de panique à bord en défense?
Ouais, leur panique à bord, et puis ils ont pas le niveau non plus, hein. Alors je parle de la défense parce que bon voilà, s'il y a des petits jeunes, mais l'équipe en globalement n'a pas le niveau face à l'ogre Messin, hein. C'est dingue à dire quand tu vois que l'effectif Messin, tu as quand même des anciens Stéphanois comme Maïga, Pajot qui n'a rien montré de football à Saint-Étienne. Pendant deux ans, et puis le Cap-Verdien qui est rentré à la fin, qui
nous ferait du bien, lui.
Qui nous ferait du bien, qu'on a laissé partir cet été, qui a très peu joué avec l'effectif stéphanois. Et rappelle-moi son nom.
Il s'appelle Wagner.
Wagner.
Ouais, voilà. Wagner. Il a été vendu, mais ça montre Wagner aussi Diaz. Que ce club de Metz, c'est vrai qu'il a il a un passé peut-être moins glorieux que Saint-Étienne, mais malgré le fait qu'ils étaient en Ligue 2 il y a pas si longtemps, je trouve qu'ils construisent quelque chose de pas mal dans ce club. Et tout à l'heure, je parlais de la filière sénégalaise. Faut pas oublier que c'est un club d'où est sorti Sadio Mané. Et plein d'autres très très bons joueurs sénégalais qui ont une académie en fait à Dakar. Et en fait il y a aussi Diallo là qui marquait but sur but l'année dernière, je sais pas si tu te rappelles, il nous avait fait beaucoup de mal aussi. Nguette est également sénégalais, mais il est né en France, lui, il est pas de Dakar. Mais il y a une filière comme ça. Et puis il faut pas oublier aussi que contrairement à Saint-Étienne, chez eux on travaille dans la continuité. Je sais pas si t'as vu comment ils le Le témoin est passé entre Vincent Ognon et Frédéric Antonetti, mais ça s'est fait en douceur, alors qu'à Saint-Étienne, ça aurait été, il y aurait eu des vagues et tout ça. Donc, je pense qu'il faut pas minimiser aussi ce club de Metz qui travaille vraiment bien, un peu comme Strasbourg. Je vais te citer un autre exemple. Hein. Ils ont refait leur stade, ils ont le stade d'entraînement couvert. L'un des plus grands d'Europe. Alors tu vas me dire ça. Et ils ont été en capacité de nous acheter Wagner. C'est-à-dire que c'est un club qui a plus de moyens que Saint-Étienne. Si tu regardes bien. Non, enfin leur budget non. Parce qu'ils ne le mettent pas au même endroit. Ils ne le mettent pas dans les salaires mirobolants, comme l'a fait Saint-Étienne. Mais ils travaillent plutôt bien du côté de Metz. Et je pense qu'ils vont en faire pâtir plus d'une équipe.
Ben, ils n'avaient pas perdu depuis 3-4 matchs, c'est Lorrain. Et ben, ils nous ont prouvé qu'à domicile, ils nous ont déjoué et ils l'ont emporté logiquement. Mais bon, quand je disais ça ironiquement, l'ogre Messin, ils sont pas bons non plus. Après, moi, je les trouve un peu meilleurs que Nice. Sur cette rencontre-là, sur les deux rencontres, moi, je trouve le Metz un peu meilleur. Après, bon, c'est différent puisque le contexte, c'est qu'ils recevaient, alors que Nice se déplaçait. Mais Lens, Metz et Nice, pour moi, sont largement à la hauteur d'un club normalement comme Saint-Étienne. Mais là, je suis désolé. Actuellement, le club a un petit niveau et un niveau voire très faible. Et si ça continue comme
voilà,
ça,
c'est ça le danger.
Je crains le pire.
C'est ça le danger. Après, on peut dire que c'est un club en restructuration, c'est-à-dire qui repart pratiquement. Oui, le projet de Claude Puel,
il est sur un siècle.
Oui.
Et oui, mais
après, est-ce que c'est compatible avec le football moderne et les attentes des supporters comme toi? Peut-être pas. Mais lui, il pense que c'est le cas. En tout cas, il pense que c'est viable dans un club comme Saint-Etienne. Alors, il y a quelque chose qui joue en sa faveur, c'est le fait qu'il n'y ait pas de supporters. Parce que cette année, ça va moins gronder, même si les résultats. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a prévenu. C'est-à-dire que la difficulté, les défaites, tout ça, elles ont été un peu annoncées. C'est pas une surprise.
Ouais, mais il y a la manière, et là on s'aperçoit quand même, on n'est pas loin du néant. Allez, un premier titre musical dans cette émission Rock and Foot. Je sais pas si tu connais la Lorraine, Olivier, mais moi je vais te présenter les Patelins Lorrains.
Patelins Lorrains, Patelins Lorrains. Représente 5-7, la Moselle, la Lorraine en force. Je vais vous faire découvrir ces villages, ces patelins, avec leurs noms qui sont quand même assez lourds à porter, hein, ce qui fait que c'est pas facile d'y vivre. Allez hop, suivez-moi donc, c'est parti pour la visite de ces patelins lorrains. Forbach, Morsbach, Bousbach, Frémin, Merlebach, Terbach, Colbach, Pérenne, les Forbach, Putlanjolac, le Fisberg, le Creusberg, le château du Schlossberg, Fischrun, Cochrun, Wolfsviller, Farschviller, Farré, Bersviller, Saint-Avold, Sarreguemines, le musée de la mine, Petite Rossel, Grosse Rossel, le Rommel, Styrin, Vandel. Je pense que tous ces noms sont bof, bof, mais il reste encore le Burkhoff. Et le pire de tous, une catastrophe, c'est Grosse Bliderstrof.
Meine Drieben, Grouchten.
Tu comprends rien, ça vient pas toi. Pourtant t'entends bien, c'est juste du patois.
Schnapsen gleich im Flauten.
Il a dit qu'on aime tous boire dans les patelins. Une vingtaine de verres de poire tous les matins. Rebenhus, Luperchou, ça sent la loose. Engbou, ça pue la bouse, et des jalouses. Mec, va donc à Chenec, y'aura de la Chenec. Volklin, Eudin, Bédin, Dédin, Tantlin, Diblin, Etzlin, Alstin, Iblin, Carlin. Putain, ça craint que des noms de godin. Lixin, les rouleurs. Oh lec, ça m'a tué là, ça m'a essoufflé là, putain. Tiens, serre-moi dans ta petit verre de schnapp, ça va me redonner des forces. Impeccable, où est-ce que j'en étais moi maintenant? Ah oui, grosse brute, laisse-moi le huc. Absterdick, suck my dick, Mother fucker bitch.
Meine Drieben, Grouchten.
Si tu comprends rien, ça vient pas toi. Pourtant t'entends bien, c'est juste du patois.
Schnapsen gleich im Flauten.
Il a dit qu'on est tous boire dans les patelins. Une vingtaine de verres de poire tous les matins.
Meine Drieben, Grouchten.
Si tu comprends rien, ça vient pas toi. Pourtant t'entends bien, c'est juste du patois.
Schnapsen gleich im Flauten.
Il a dit qu'on est tous boire. boire dans les patelins, une vingtaine de verres de poire tous les matins. Et voilà, ainsi donc se termine la visite. J'espère que tu as apprécié la Lorraine, son accent, ainsi que les noms de tous ces patelins.
Patelins, 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 patelins.
Alf Lorraine avec le titre Patelin Lorrain. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Coup de tête, donc pour analyser cette défaite, cette quatrième défaite en terre lorraine à Metz, 2-0.
On enchaîne et je crois qu'on sera d'accord sur le prochain débat. Je voulais te demander si les buts qu'ont encaissés les Stéphanois, est-ce qu'ils n'étaient pas inexcusables pour toi? Est-ce qu'on peut excuser de prendre de tels buts? Et la dernière fois, c'était pareil. Hein.
Bah, se prendre un coup franc, alors après, il est bien tiré, mais effectivement, si tu places un mur et que le mur... Après, pour moi, il y avait peut-être pas assez de monde dans ce mur. Hein. Ils étaient 4. Ouais, mais j'en aurais mis au moins un 5e, parce que le coup franc est quand même à moins de 20 mètres. À 20 mètres. Donc j'aurais mis au moins 5 joueurs. Et puis oui, effectivement, donc il y a Bonga qui se tourne au moment que le ballon arrive vers lui.
C'est
donc
honteux.
C'est problématique. Donc et puis ça peut surprendre effectivement le gardien, même si il était pas loin, hein, Moulin.
Il est pas loin, mais normalement le mur il sert à justement couvrir ce côté-là. Bon, sauf s'il est très bien frappé, mais là il passe au niveau des épaules des joueurs stéphanois qui sont dans le mur. Normalement, tu te sacrifies. Voilà, et ben, franchement. Puis en plus, le dimanche en district, tu hésites parce que le lendemain, tu vas au boulot, tu risques de te faire. Ça risque de te sécher, on est d'accord. Mais quand tu es footballeur professionnel, normalement, tu n'hésites pas à te sacrifier dans ces situations-là. Et c'est exactement ce que je disais. Tu mets Perrin dans le mur, il ne fera jamais ce genre de geste. Il va garder. Il va pas se tourner.
Alors. Il y a peut-être un reproche que je ferais à la.
Ils sont deux, hein, à se tourner et à laisser la balle passer.
Mais moi, les attaquants, en fin de compte, je les mettrais jamais dans un mur.
C'est vrai. Donc, c'est vrai, c'est le problème.
Moi,
ça.
J'ai appris comme quoi les attaquants, ils étaient déjà prêts à réattaquer, à contre-attaquer.
Non, en même temps, tu mets qui dans la si centre.
Ben, je sais pas, mais pas ouais. tu mets pas un attaquant, tu mets un milieu de terrain, tu mets ouais. des défenseurs de voilà qui sont
ouais,
habitués,
terrain, ouais,
qui sont habitués. Donc voilà. Et sur le second but, déjà, ben, c'est Mouefek qui laisse passer son vis-à-vis sur le côté gauche, qui a toute l'aisance de centrer, et puis bah ben, oui, ça passe devant le but de Moulin, et puis voilà, ça rebondit sur le haut, sur la poitrine de Sissoko. Et
ouais,
puis
ça va peut-être un peu vite, mais moi j'ai revu les images, il y a Chibuabua aussi qui touche légèrement la balle, et lui, éventuellement, il aurait pu dégager. Alors ce qu'il faut faire, c'est le risque, c'est le but contre son camp, bien sûr, il est assez bien centré. C'est assez bien centré de la part de Maïga, l'ancien Stéphanois, mais les deux défenseurs, ils reviennent vers leur but et c'est toujours hyper délicat. C'est peut-être un petit problème de placement qu'on n'aurait pas vu avec Fofana. Fofana, j'ai jamais vu dans cette situation. Et donc voilà. Pour moi, c'est des buts qu'on peut éviter. Et même si Metz a jamais tremblé, on pouvait repartir de Metz avec le match nul, parce que ces deux buts, ils sont évitables.
Oui, alors le match nul, oui, effectivement, quand tu regardes le match et que tu es mené au bout d'un quart d'heure, ramener un point, ça aurait été pas mal. Mais bon, vu la prestation du week-end précédent et le pauvre jeu face aux Aiglons niçois, j'ai dit, tiens, il va y avoir une réaction. En plus, Metz, bon, ben voilà, ils sont pas... c'est pas Manchester City, il y a moyen de faire quelque chose. Et puis bah voilà, une fois de plus, un week-end de plus, bah on est dépité vu le spectacle et vu le résultat final, quoi. 2-0 face à Pajot et compagnie, ça fait mal.
Alors, ça m'amène à la question suivante, ce que tu dis, parce qu'on avait déjà vu de gros manques lors du match précédent, et Puel, et ses fameux coups de Puel, eh bien, il a remis les mêmes joueurs. En parlant de coups de Puel. Alors, je fais référence à la titularisation de Sow et de Sissoko en défense. Pour moi, Eric l'avait souligné également, ils ont de très grosses difficultés, ils mettent leur équipe en danger. L'absence de Kazri aussi au coup d'envoi pouvait surprendre. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Non, après j'ai souligné au début que c'était pas évident pour sélectionner un 11 de départ, mais effectivement oui, je suis surpris que Kazri soit pas aligné dès l'entame de match. Ça c'est voilà.
Et on l'a vu hein, quand il est rentré, il amène une pressing. Alors bon, des fois ça lui joue des tours, mais au moins il presse.
On a l'impression qu'il est sans solution avec donc cette pelletée d'absents.
Ah, j'ai cru que tu disais cette pelletée de jeunes joueurs pas au niveau.
Des blessés à la puelle.
Ouais, ça c'est sûr. Ça sera peut-être le titre. Mais sur Sow et Sissoko, Sow, à la limite, tu comprends qu'il le remette après son erreur de la dernière fois. On se rappelle qu'il l'avait sorti après son but là. C'est vrai que tu peux te dire, voilà, pour pas qu'il reste sur cette action toute sa carrière. Tu le remets pour qu'il reprenne confiance. Bon, ben, je suis pas sûr qu'il ait vraiment repris confiance, parce qu'à des moments, il a fait peut-être des dégagements qu'on voit d'habitude en district, des chandelles.
Ouais,
des
ça chandelles. Ça me dérange pas, ça.
Non, si, c'est, je veux dire, non, l'équipe, elle prend. Je me mets à la place des joueurs messins. Tu vois un défenseur qui fait ça, tu prends énormément confiance en toi parce qu'il sait pas quoi faire de la balle. Mais et je suis d'accord avec toi, le plus dangereux, c'est Sissoko qui fait illusion. Il est un peu plus âgé, notre ami Alpha Sissoko, qu'on connaît bien puisqu'il a joué au Puy-en-Velay.
Pas souvent.
Ouais, c'est vrai. Il était même pas titulaire au Puy. C'est ce que soulignait Eric la dernière fois.
Mais voilà, c'est qu'ils ont pas le niveau. Voilà.
Mais là,
ils sont peut-être plein d'espoir et ils vont peut-être briller dans 3-4 ans. Mais actuellement, il faut gagner des matchs et ils ont pas le niveau pour l'emporter face à Nice et face à Metz. Et c'est problématique.
Alors le tout, c'est de voir, est-ce que c'est formateur ou est-ce que ça c'est traumatisant. Et c'est ce que je dis sur Sow, c'était plutôt traumatisant de le remettre au placard face à juste quelques jours après son erreur qui a coûté un but à Saint-Étienne et à Moulins.
Accumuler des défaites n'est jamais très formateur à mon avis.
Ouais, après c'est aussi dans la défaite que tu apprends, hein. C'est-à-dire que ça dépend comment Puel envisage les choses, mais lui il se fixe aucun objectif hein, cette année. Là je reprends ma casquette de défenseur de l'entraîneur stéphanois. Ce que le problème, c'est vrai que l'entourage, l'environnement risque de mettre la pression sur ces joueurs. Ça, ils ont énormément de chance, il y a pas de public, mais de la part du staff, à mon avis, ils se sont fixés aucun objectif, là, si ce n'est le maintien. Et on en parle justement. On va en parler juste après. Ça fait la quatrième défaite qui se succède. 12 buts encaissés, un seul but marqué depuis la deuxième mi-temps lors du déplacement à Nantes. La SSE s'apprête. Est-ce que la SSE s'apprête à vivre une saison en galère à la Oscar Garcia?
Tu l'as déjà posé la question.
Oui, mais vous m'avez pas
répondu.
Mais
si, mais évidemment.
Concrètement.
Évidemment, et puis les matchs succèdent là depuis un mois, et on voit bien que ça va être difficile. T'as aucune défense, aucune solidité défensive, surtout depuis le départ de Fofana en charnière centrale. Donc Moukoudi qui est absent, Masson qui s'est blessé. Donc ça va être compliqué défensivement. Donc on va prendre des buts, et puis donc pour prendre des buts, faut donc en marquer plus que l'adversaire. Donc il faut marquer des buts. Et quand tu vois que sur un match comme celui de ce week-end, et que tu es incapable de te créer des occasions, c'est créer trois, et surtout donc de cadrer un tir pendant 90 minutes, ça va être compliqué, évidemment, quoi. Et puis, donc là, j'ai parlé de l'offensive, donc défensive, mais le milieu de terrain, et là, je vais pointer Aouchiche qui jusque-là, il s'en sortait, il faisait des matchs relativement corrects. Mais là, il manquait vraiment de hargne, de dynamisme, de vitesse et pour trouver ses attaquants. On l'a vu complètement à la rue sur cette rencontre-là.
On parlera Camara, des flops.
Camara après. Et Neyou n'ont pas fait la différence. Mmh. Je suis désolé. Face à Pajot et Maïga, c'est quand même dingue, quoi. Donc, ouais.
Je te trouve dur avec Maïga parce que moi, j'ai toujours trouvé très très solide.
Oui, mais c'est
vraiment contrairement à Pajot qui nous avait fait des cartons rouges,
Moi aussi, je l'aime bien, ouais. Maïga, mais ouais. C'est bon, c'est pas.
Non, c'est pas Verratti ni. On est d'accord.
Ouais, attends, Verratti, c'est plus un 6, mais c'est plus un 8, Maïga, pour moi. Mais.
Comment il s'appelait, le maestro Stéphanois, c'est notre référence en tant que Stéphanois au milieu de terrain, c'est l'ivoirien. Comment s'appelait-il?
Oui, je vois le
maestro.
Zokora,
voilà, c'est vrai que Zokora, c'était autre chose. Alors, pour sortir du cas par cas, oui, Matuidi, par exemple, du cas par cas, est-ce que c'est la crise d'ores et déjà à Saint-Étienne, Marco?
Après. Ouais, dans le contexte, c'est la crise sanitaire, c'est la crise à Saint-Étienne aussi. Après, est-ce que la crise sanitaire, le fait d'être privé de public, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas la même chose pour les joueurs et le staff coaching, quoi. On peut dire que c'est la crise. C'est en 4 défaites d'affilée face à des équipes pareilles. Lens, Nice et Metz, waouh, t'as vu ce qui arrive?
Donc ouais, mais justement, est-ce qu'on va pas justement relever le niveau avec des équipes plus fortes? Et puis si on regarde bien, 10 points en 8 journées, si on reste sur ce rythme, ça donnerait 43 ou 44 points. Et avec ce nombre de points, on se maintient. Si on reste sur le même rythme tout au long de la saison, on se maintient. Ouais, et puis il faut pas oublier...
T'as plus Fofana et t'as plus Masson, hein.
C'est vrai. Après, il y a des joueurs qui vont rentrer comme Debuchy, qui quand même va faire du bien. Non, mais par rapport à Sissoko, je veux dire, il va stabiliser le côté droit quand même. Abi aussi en attaque, je pense qu'on peut quand même espérer qu'il fasse mieux que Crasso. Qu'il fixe un peu plus. Il y a beaucoup d'espoir de la part de Puel sur ce joueur.
Non, moi j'y crois.
Boudbouze qui va être réintégré. Heureusement, on peut quand même juste dire que c'est le nombre de blessés et de suspendus est anormalement élevé et que il va y avoir de meilleurs passages. Alors c'est vrai que il y a des joueurs qui vont pas revenir de sitôt, hein, tu as parlé de Masson, lui il est blessé pour longtemps, mais Abi, ça y est, il y revient. Gabriel Silva, alors c'est un gros mystère, mais normalement il devrait rentrer aussi.
Mais tu vois, ils auraient dû revenir, et j'ai pas compris pourquoi ils étaient pas déjà présents pour l'entame.
C'est un coup de tête là que je voulais lancer.
Parce que Debuchy, c'est pareil, pour moi il reprenait ce week-end, quoi. Ouais.
Alors justement, par rapport à ce qu'on dit sur la classe biberon de la Saint-Etienne, figure-toi que Saint-Etienne se classe quatrième en Europe, hein, parmi tous les clubs européens au niveau de la jeunesse de son effectif titularisé, hein, qui démarre les rencontres, avec 24,8 ans derrière le Milan. Il y a aussi Reims, qui a une équipe très très jeune.
Monaco,
mais Monaco, non, ils sont pas dans ce trio-là. S'il y a peut-être Monaco, t'as raison. Alors en tout cas, pour revenir à Saint-Etienne, est-ce que c'est une bonne chose ou une bonne idée ou une mauvaise idée d'aller vers cette toujours plus de jeunesse?
Bah, t'as la réponse, hein. Regarde les derniers matchs. Non, pour moi c'est une mauvaise idée. Il faut pas se séparer comme l'a fait Puel de ses plus vieux. Il y a Kamouma qui est qui peut montrer l'exemple, mais il faut un mélange des deux, et puis passer du coq à l'âne, c'est-à-dire sous l'air gacé, il y avait pas de jeunes, ils faisaient pas rentrer les jeunes très très rarement, hein. Je pense à Gueye et Wagner qu'on
Saliba,
avait dans
Saliba, il est rentré rarement aussi.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc ils avaient peu d'occasions de rentrer pour entamer les matchs de Saint-Etienne sous l'air gacé. Et puis là, c'est tout son contraire, quoi. C'est tout son contraire. Il y a que les jeunes et les vieux, on les fout dehors. Donc voilà, moi la situation actuelle ne me plaît pas du tout, puisque mettre de côté donc certains joueurs, ça convient pas. C'est un appel pour moi, non?
C'est C'est justement là, David Ventier qui,
oui, qui réagit.
Qui pense la même chose que toi. Non, je te laisse finir. Vas-y.
Ouais, donc se séparer des anciens, je pense en plus dans le foot où c'est collectif, c'est bien de s'appuyer sur certains cadres. Et jusqu'à maintenant, c'était Perrin, hein, qui guidait un petit peu tout le monde avec avec son parcours et puis son caractère. Peut-être des fois un peu trop effacé, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui puisse te guider, t'aider. Là, il y a que des jeunes, donc non, pour moi, c'est pas une bonne solution. Et dans toutes les bonnes équipes, il y a un mix de tout ça et des générations qui arrivent. Mais là, il y a que des petits jeunots et qui n'ont pas le niveau. Et en plus, chaque week-end, ils prennent des roustes et ça risque d'être compliqué.
Alors, ce que tu dis, c'est exactement ce que dit David Ventier. Il a fait une interview dans la presse cette semaine où il dit justement que ce qui est difficile à Saint-Etienne, c'est de passer d'un modèle à un autre opposé, trop différent en fait, et trop rapidement. Alors, il a peut-être raison. Et en même temps, en fin de match, c'était quand même plutôt chouette de voir sur le terrain une défense complète qui était composé de joueurs qui sont formés au centre de formation. Alors c'est bien pour deux choses, c'est bien pour l'avenir de ce club, parce que on sait très bien on n'a pas les moyens de s'acheter de très très grands joueurs. On a essayé en empruntant et on voit que on a des difficultés à se sortir de ce modèle. On a acheté quelques joueurs comme ça assez chers, mais on n'a pas ça n'a pas été une réussite. Et puis la deuxième chose, c'est que pour les faire mûrir, comme Fofana, comme Saliba, on sait qu'il en faut beaucoup qui mûrissent pour pouvoir en aligner quelques-uns et que ça dure un petit peu pour éventuellement équilibrer les comptes lorsqu'il y a une vente. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour certains joueurs. Hein. On est en train d'essayer de faire prolonger des jeunes joueurs qui vont je pense à Nordin par exemple. Donc Nordin, c'est pareil, c'est en attaque, mais c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça depuis quelques temps, et on voit que là il arrive à maturité. Moi, ça me dérangerait moins de le vendre, tu vois, au bout de 3, 4, 5 ans. Il arrive en équipe première, il reste 3, 4, 5 ans et après tu le vends, alors que Fofana, il a fait 20 matchs uniquement. Parce que c'était en exposant un seul jeune comme ça, il est trop exposé et il part immédiatement. Ça a été un peu pareil pour Saliba. Alors que là, finalement, s'il arrive Puel à créer un groupe de jeunes joueurs comme il a l'habitude de le faire, ça peut être, tu vois, il peut y avoir une émulation, qu'ils aient envie de faire des choses ensemble et qu'il n'y ait pas forcément de tête de gondole. Que ce soit assez homogène au niveau du niveau, mais qu'il arrive à les faire monter tous en même temps comme ça. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée pour un club qui a une tradition de formation comme à Saint-Etienne.
Écoute, j'ai l'impression en t'écoutant parler, tu me parles de vin, tu parles de maturation, tu parles d'exposition, tu parles d'émulation. Ouais. Mais ouais, et puis c'est ce qu'on disait donc sur les deux émissions précédentes, c'est que ouais, il est dans la gestion, et la gestion, c'est pas le foot pour moi. Donc c'est de la gestion à long terme. Mais moi, chaque week-end, j'attends à ce que mon équipe fasse le mieux possible pour l'emporter face aux adversaires, et pour l'instant, on en est loin. Voilà, moi je m'arrêterai simplement à ça. C'est tout simple, t'as un ballon au milieu, t'as 90 minutes, il faut la mettre dans le but adverse. Et pour l'instant, en fin de compte, je passe complètement à côté. Même s'il y a eu un éclairci en début de saison. Maintenant, on est amoindri et on n'y arrive pas. Et on n'a vraiment pas le niveau, et je vois de direction la Ligue 2... Ouais, si on continue comme ça, oui, de toute façon, on n'a pas le niveau. Hein. Les ceux qui nous ont battus, ils étaient. On va dire sur les rencontres,
on
n'a
pas
la
Coupe d'Europe. Quoi. Contrairement à d'autres années, on n'a pas la Coupe d'Europe qui va venir tous les jeudis. Et ouais, on l'a vu avec Rennes, hein. Rennes qui paye en championnat la Ligue des Champions. On le voit aussi parfois avec d'autres clubs. Nous, ça nous a beaucoup coûté.
Oui, mais ça peut être des accidents, si tu veux. Par exemple, tu me parles de Rennes. Rennes, c'est la seule équipe qui est vraiment qui a dominé les débats face à nous. Il n'y avait pas photo entre les deux. Voilà. Par contre, face à Lens, face à Metz et face à Nice. Pour moi, c'est à peu près du même acabit que Saint-Etienne, et on a été incapable de grappiller des points face à ces équipes-là. Et là, c'est vraiment problématique pour se maintenir au niveau de la Ligue 1.
Moi, je garde confiance. Et d'ailleurs, j'ai posé, t'as vu, une question. Est-ce qu'il y a eu une éclaircie dans cette grisaille lorraine, selon toi ? Une petite note positive.
C'est compliqué de voir une note positive sur cette rencontre-là. J'étais content de voir Kasri revenir. En plus, il bougeait pas mal. Mais bon, sur son côté droit, pour moi, il est moins efficace qu'au milieu de terrain. Au milieu de terrain, justement, à la place d'Aouchiche, il aurait pu... Bah, pour moi, il aurait été plus pertinent de le placer à ce niveau-là, surtout pour alimenter Bouanga et Amouma. Voilà, donc le voir un petit peu sur le côté droit, c'était mon éclaircie sur cette rencontre. Et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça s'est éteint.
Ok, alors de mon côté, c'est le jeune Chibuabua, là, qui, malgré sa petite erreur sur le but... Alors au début, j'ai cru que c'était un hommage de Puel à Annie Cordy, tu sais pourquoi ? Parce que tire-li pimpon sur le Chibuabua. J'ai cru que c'était ça. Et puis en fait, non. Il c'est un bon joueur, Chibuabua. D'ailleurs, il fait partie du groupe qui a gagné la Gambardella. Et puis, il est bien meilleur que So, pour moi. Il s'est projeté à des moments. Il a failli marquer. On la voit. C'est souvent que même les attaquants ne réussissent pas à redresser leur tête quand ça vient fort comme ça. Et c'est dommage parce que il est plutôt physique, mais fit, hein, quand même. Je trouve qu'il a perdu en masse corporelle, ce joueur, et je l'ai trouvé bien meilleur que le jeune So, qui est pourtant titulaire depuis deux matchs. Et puis, justement, est-ce que tu as relevé d'autres flops et d'autres tops ?
Top, non. Des flops.
Mouefek, il a été moins catastrophique.
Mouefek, il a eu un petit étincelle lorsqu'il a eu cette position de milieu de terrain. Ouais. Hein, il a dépassé deux, trois joueurs, et puis il y a eu une faute de Pajot, il me semble, sur lui. Pajot qui a quand même aligné quand même pas mal de fautes, hein, sur nos pouces vertes. Mais Mouefek, il est pas mal, mais il est pas mal. À sa position de latéral gauche, non, pour moi, ça lui convient pas.
Et puis, surtout qu'il passe d'un côté à l'autre.
Et puis Monet Paquet, les 20 premières minutes, j'ai dit ouais, c'est plutôt, voilà, il revient un peu, mais voilà, il apporte absolument rien, le pauvre Monet Paquet. Donc non, c'est... Moi, je vois que des flops de partout. Hein.
Ouais, et notamment Aouchiche, je voulais dire, ouais. Aouchiche dans les flops. Et Amouma aussi, j'ai trouvé qu'il, malgré son brassard de capitaine, il s'est découragé. À un moment, j'ai pas trop aimé son attitude de marcher. Il perd la balle, il est parvenu. Bon, ça se voit tout le temps, mais quand t'es capitaine, quand même.
Ouais. Après, il allait chercher, il courait beaucoup dans le vide, hein. Il allait chercher des ballons au niveau du milieu de terrain, alors que c'était pas son rôle. Donc, peut-être un petit peu désabusé aussi par la situation, parce que les matchs se succèdent et puis, y a peu d'occasions, effectivement, peu d'occasions pour Romain Amouma sur cette rencontre. Après, il a fait deux centres, il a fait un centre qui est pas mal, mais après, t'as personne. Mais oui, Beric, il s'en est séparé, l'autre. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Allez, un deuxième titre musical, un autre Messin, ce sera Gisberg, que j'apprécie. Avec The Second of the Five.
Saturday PM heat under the G train. Breathing in, breathing out fast. There's a block, party up Jefferson. There's too much to smell
Le Messin avec le titre The Second of the Five, ça va être déménage avec Gisberg.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda.
Voilà, et dans votre émission Coup de tête, eh bien, on vous propose un match historique et puis la présentation du match qui va avoir lieu le week-end prochain pour nos Stéphanois. Mais avant ça, un petit focus sur un peu l'histoire du club qu'on va affronter. Et ouais, on reconnaît l'accent avec tout ce petit hymne assez kitsch, hein, bien sûr, c'est volontaire. Ce petit hymne pour lancer la chronique historique d'un match qui a marqué l'histoire entre Montpellier et l'AS Saint-Étienne, Marc.
Ouais, qui a marqué les esprits des supporters stéphanois. Et j'en faisais partie, c'était le 16 février 2000 dans ce championnat de France de D1. Nous étions plus de 20 000 spectateurs pour assister dans le froid à cette rencontre entre Saint-Étienne qui c'était l'année du 5-1 face à Marseille. Voilà, c'était quelques mois plus tard bien sûr, et que Montpellier, en fin de compte, était plutôt dans en lanterne rouge. Mais bon, à ce moment-là, Saint-Étienne avait du mal à regagner des rencontres, et puis bah comme Montpellier aussi, ils avaient du mal. Donc ça jouait quand même. Il y avait une tension avant cette rencontre. Donc dès la 11e minute de jeu, c'est Jean-Guy Wallem qui détourne un centre montpelliérain dans ses propres filets, et c'est Jeannot dans les buts qui son premier match à Jeannot à Geoffroy Guichard. oui. Il me semble. Et 10 minutes plus tard, c'est Patrice Loco qui lobe, hein, qui lobe Jeannot, voilà, alors que la défense forésienne passe complètement à travers. Ça fait 2-0 au bout de 21 minutes de jeu. Donc le Montpellier Hérault a fait preuve de réalisme et on sent les Verts empruntés et on donne pas alors pas cher de leur peau. Mais il était écrit que ce match allait basculer dans l'irrationnel. Les Verts marquent en effet 4 buts en l'espace de 18 minutes. C'est d'abord Stéphane Pedron qui sonne la révolte à la 27e minute en concluant d'un plat du pied au second poteau. Et 4 minutes plus tard, l'arbitre accorde un pénalty peu évident aux Stéphanois et c'est Aloisio qui se fait pas prier puisqu'il met une mine en plein centre et c'est Priou qui va chercher le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 et survolté et poussé par un public réchauffé, les Verts continuent à la 36e minute. C'est Alex qui traîne dans la surface pour reprendre une belle tête d'Aloisio et tromper Riou avec l'aide du poteau, 3-2. Et enfin, la dernière minute de la première période, c'est Carotti. Et oui, Carotti, c'est le Montpellierin, hein. Il jouait à l'époque au PSG, mais il a fait une purge de 6 mois chez nous. Et ben voilà, sans doute un peu hors jeu, mais il marque le 4e but, voilà, suite à un corner, 4-2. Score à la mi-temps, 4-2. Au retour des vestiaires, les Forésiens redeviennent un peu amorphes et la lanterne rouge du championnat en profite. Coup sur coup, 56e et 58e minute de jeu, c'est Loco puis Rui Pataca qui prennent le dessus sur des défenseurs statiques et les deux équipes se retrouvent de nouveau à égalité à une demi-heure de la fin du match. Les 30 minutes sont incertaines et la neige qui commence à tomber. Ça ajoute un petit peu de dramaturgie à ce match complètement foufou. Plusieurs fois, les Stéphanois et Montpellierans ont le but de la victoire au bout du pied et il faut pourtant attendre la 81e minute de jeu pour que la rencontre bascule définitivement du côté des Verts sur une contre-attaque. C'est Alex qui rapidement envoie en profondeur son compère Aloisio qui grille la politesse à la défense centrale et d'un petit pointu, je me souviens, un pointu, frappe et Riou ne peut que freiner la course du ballon et on voit le ballon qui va mourir au ralenti au fond des filets. Ça fait 5-4. Donc à 10 minutes de la fin du match, cette fois-ci le score ne bougera pas et c'est une bouffée d'oxygène au classement pour les Verts de l'ex-Payadin Nouzaret et un nouveau coup de massue pour les hommes de Nicolin. C'est un des meilleurs matchs. Bah en tout cas, moi, voilà, j'aime ça. Vous vous rendez compte, 9 buts dans une rencontre et puis avec des retournements de situation. C'est le foot comme j'aime. Alors effectivement, tout était pour l'attaque et je me souviens qu'il y a encore un résumé que vous pouvez trouver sur internet évidemment. Et il y a vraiment plein d'occasions de part et d'autre et c'était un match complètement fou et j'ai vraiment aimé ce match-là. Il faut souligner que 13 ans plus tard, il y a eu aussi un petit peu un match foufou avec la neige qui intervient. C'était René Girard qui était entraîneur de Montpellier.
Ah oui, je me rappelle de Brandao. C'était au début du match là.
Ouais, c'était au début. Ils l'ont arrêté, ils l'ont repris. Voilà, c'était 13 ans plus tard.
À cette époque, on n'arrêtait pas les matchs. Voilà, il y avait que des guerriers.
Et c'était une victoire 4-1. Voilà, c'est un match épique de
la SSE. Guillou là, Guillou, il devait y être là. Ça, c'est des matchs qui lui plaisent. Ça.
Guillou en 2000, il y était, oui. Guillou, il y avait.
Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça tient au duo Alex Aloisio ou est-ce que c'est plutôt l'entraîneur Nouzaret qui faisait parce que c'est souvent que vous donnez des matchs de cette période-là avec Eric et je me demande est-ce que c'est plutôt les deux attaquants ou c'est l'entraîneur qui
c'était l'entraîneur qui aimait vraiment le football spectacle hein, voilà et on prenait énormément de buts mais alors qu'est-ce qu'on en marquait. Et c'est le pied. Et effectivement, quand tu revois Aloisio, on a revu 2-3 matchs justement pour ces émissions coup de tête. On fait des matchs historiques. Et on voyait qu'il apportait énormément devant et qu'il pesait sur une défense. Chose qu'on retrouve plus. Qu'on voit plus, en tout cas, dans l'effectif stéphanois.
Alors merci pour ce retour vers le futur, hein, Marc. On va, si on revient à 2020-2021. Figure-toi que Saint-Étienne reçoit Montpellier dimanche 1er novembre à 13h. Attention, hein, ne vous laissez pas avoir, ça sera à 13h de bonne heure dimanche. Et ils reçoivent donc une équipe de Montpellier qui avait bien commencé, mais qui est en train de marquer le pas. Rien ne va plus du côté de Montpellier Hérault depuis leur défaite à la maison lors du derby face à Nîmes. Tu te rappelles, les crocodiles nîmois qui sont venus croquer les Montpelliérains, ils ont beaucoup de suspendus, et pas les moindres.
Hein. Des rouges aussi.
Il y a eu des rouges, bien sûr. C'est ça, suspendus Savanier, Hilton et Le Talec qui seront pas là dimanche du côté de Montpellier. C'est peut-être une chance pour Saint-Étienne. Et leur entraîneur aussi qui a dû s'absenter, tu le sais, pour cause de Covid. Et bah, sans entraîneur, c'est là qu'on voit l'importance d'un entraîneur. Ils sont un petit peu perdus sur le terrain. Ils viennent de perdre 4-0 à la maison face à Reims. Un match en plus où ils ont perdu leur gardien Jonas Omlin qui faisait un bon début de saison sur une blessure aux ischio-jambiers. Donc c'est peut-être la chance de Saint-Étienne de tomber sur une équipe de Montpellier qui ne va pas très fort, mais leur entraîneur sera de retour. Dimanche donc Saint-Étienne-Montpellier à 13h à Geoffroy Guichard. Devant certainement très très peu de Stéphanois.
Ouais, et compliqué pour visionner ces rencontres. On en reviendra justement dans les coups de tête et coups de cœur. On commence justement par les coups de cœur.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Et ben, avant qu'on ait plus le temps de le passer, je voulais qu'on passe un petit extrait d'un humoriste qui s'appelle Alban Ivanov et qui a sorti un sketch. Alors ça date un petit peu, mais je trouve que dans le contexte actuel, ça fait du bien. Et surtout qu'il se moque, bon, il parle du foot, hein, vous l'avez deviné, mais il se moque aussi des trois religions qui sont, faut pas l'oublier, trois escroqueries.
J'aurais dû être footballeur professionnel, mais j'ai eu un problème. Ah, j'étais nul, quoi, c'est ça. Oh, de la merde, oh là là. Je jouais en division 8 district. Ah ben c'est la plus basse division qui existe dans le football. En dessous, c'est du handball, tu vois. Donc tu perds les crampons, tu dégages. Dans le championnat, il y avait de tout. On avait les aveugles de Morpa, les sourds de Saint-Cloud, les islamistes de la Verrière. Ah, le FC Mosquée, ça jouait, attention. Sévère. 11 joueurs, 11 barbus. Même leur logo, c'était une petite barbe, très bien rasée. Et eux, dès qu'ils marquaient un but, ils se mettaient tous à faire l'avion. Et ils fonçaient dans les poteaux. Et ils étaient chauds. Hein. Bizarrement, cette célébration n'est pas dans FIFA 15. Hein. Attention, je veux pas me fâcher, pas d'amalgame. Est-ce qu'il y a des musulmans ce soir dans la salle? Aïd Mabrouk! Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures, monsieur? Bien? Écoutez, j'ai chouré ça vendredi à la mosquée. Oh, ça va, c'est la crise. Hein. Tu pries, je fais mes courses. Hein. Alors, 42, trop grand.
Voilà, Alban Ivanov et sa vision du foot.
Ouais, alors, deuxième personne très présente sur les réseaux sociaux, c'est Didier Roustan. Vous le savez, on en parle souvent. Il remonte comme ça le temps en parlant de toutes les saisons de Ligue 1, de Ligue des Champions. Il fait une place aussi au Ballon d'Or. Et là, il en est au podcast 75. Et au podcast 75, ben, il s'arrête. Mais il s'arrête pour mieux reprendre parce qu'il lance un appel. Figure-toi qu'il a remarqué que la fameuse commission de la Ligue qui choisit les droits télé, bah figure-toi qu'il y a des représentants des entraîneurs, il y a des représentants des joueurs, il y a des représentants de la médecine, il y a des représentants des présidents. Mais il y a un élément qui manque, tu as deviné, c'est les supporters. Et donc il voudrait que les supporters créent un collectif pour être représenté à la Ligue et éviter à la Ligue de faire des conneries comme ce qui a été fait avec le choix de Mediapro, par exemple. Hein, peut-être ça n'aurait pas été évité, mais donc il lance un appel et pour ceux qui souhaitent adhérer à ce collectif d'aficionados du football, pardon, il propose d'envoyer un mail en disant j'adhère à l'adresse suivante cadf1023, puisque c'est l'appel du 10-23 du 23 octobre, cadf1023@gmail.com.
Voilà pour mes coups de cœur.
Allez, je vais faire vite parce que ça se termine. J'ai aimé le retour d'Antonetti. Ça fait plaisir de le voir sur les bandes de foot. Voilà, j'ai aimé aussi le tirage au sort pour la Haute-Loire puisqu'il va y avoir le derby en Coupe de France entre Velay FC et Le Puy. Voilà pour les coups de cœur. On va passer au coup de tête.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Allez, rapidement.
Ouais, alors de mon côté, Gabriel Silva qui n'en finit pas d'être en instance de reprendre, mais on sait pas quand. Et puis Fofana qui a dit, qui a fait des interviews, qui parle un petit peu de Saint-Etienne, qu'il a dit tout son amour pour l'Olympique de Marseille, pratiquement rien sur Saint-Etienne, mis à part qu'il a dit j'ai toujours tout fait pour ce club. Alors s'il estime qu'en ayant joué 20 matchs, il a toujours tout fait, il a tout fait pour ce club, que devraient dire d'autres joueurs?
Olivier était naïf parce qu'il a dit tout le contraire il y a 6 mois, voilà, comme quoi Saint-Etienne c'est ton club de cœur. C'est des fouteux, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Ouais, voilà, faut le souligner. Ouais. Parce que si personne le souligne.
Moi, je prends pas au sérieux tout ça. J'ai pas aimé l'annonce de la mort du gardien de l'équipe d'Auxerre, de l'équipe de France, Bruno Martini, cette semaine. Ça m'a attristé. J'ai pas du tout aimé la gestion du faux départ de Boudbouze, comme quoi. On est vraiment ridicule comme club pour cette gestion, tu vois, on parlait de gestion, mais moi je trouve que la gestion dans ce club, c'est catastrophique. Et j'ai pas aimé aussi que sur le match de Metz Saint-Etienne, l'arbitre tombe toujours dans le panneau, puisque les Messins n'ont pas arrêté de tomber et ils sifflaient. Et dans le cas contraire, ils sifflaient rarement. Donc ça m'a un petit peu énervé, donc je tenais à le souligner.
Je rajoute que le problème de Boudbouze, c'est qu'il veut pas céder un euro de son salaire. Et c'était déjà le cas pendant le Covid, on lui a demandé de baisser, il a refusé, en souriant, mais il a refusé. C'est surtout un problème de salaire qui a posé problème, c'est
Écoute,
pas Saint-Etienne.
On en reparlera la prochaine. Si, pour moi, si, on en reparlera justement. Allez, bonne semaine à vous. On se retrouve donc pour analyser le match face aux Héroletais, donc 13h dimanche. Allez les Verts, ils en ont bien besoin.